Bonjour et bienvenue sur En Amour, ton émission de podcast dans laquelle nous explorons les méandres des relations amoureuses, puis ajouter une pointe de conscience, de bienveillance et bien sûr d'amour. Moi c'est Nicolas, je suis ton hôte, je suis aussi l'auteur du blog grainesdecoeur.fr et aujourd'hui c'est l'épisode 154 que j'ai intitulé « L'importance du non-jugement et de savoir accueillir ce que vit ton partenaire, ta partenaire, notre partenaire dans un couple ». Ce que je vais partager aujourd'hui, a priori, ça peut paraître comme quelque chose qui n'est pas utile tous les jours. Et pourtant, ça peut être utile tous les jours de la vie d'un couple ou dans la grande majorité. C'est surtout important quand ça va moins bien, quand il y en a l'un des deux qui traverse quelque chose de bouleversant, de chamboulant, quand il y a quelque chose qui déroute, quand il y a quelque chose qui fait qu'on se sent perdu. Et l'invitation, donc cette invitation au non-jugement, à cette capacité d'accueil de ce que vit l'autre, je vais détailler un peu tout ça au long du podcast, t'en parler bien plus en profondeur, j'espère que tu auras la chance, entre guillemets, de pouvoir rendre l'appareil à ton partenaire si lui il est capable de ça, et que toi tu es un partenaire qui est capable de te rendre l'appareil quand toi tu es déprimé, quand toi tu es triste, quand toi je ne sais quoi d'autre, quand toi tu es paumé, quand tu es perdu, quand tu es confus, quand tu es voilà, quand tu es chamboulé, ce genre de choses. Et avec ou sans raison, il y a des fois des choses qui nous traversent, des émotions qui nous traversent, et on n'est pas toujours très clair du pourquoi on vit ça, pourquoi cette émotion elle est là. On n'a pas encore trouvé la raison, il n'y a pas besoin d'avoir une raison pour que la. On va dire, s'il y avait une bonne réponse à avoir, il y a plein de bonnes réponses à avoir, mais peut-être la bonne posture dans la réponse qu'on a, ce serait, pour moi, d'après moi, le non-jugement et l'accueil de ce qui est, de ce que vit l'autre. Et ben, on va un peu explorer tout ça ensemble, hein. Et pour moi, c'est vraiment essentiel, en fait, de réfléchir, de penser, de mettre de la conscience sur la qualité de la relation que tu souhaites. C'est quoi dans quelle relation tu veux être, avec qui déjà, mais pour. Avec quelle qualité de relation? Et si tu veux une qualité de relation dans laquelle il y ait du non-jugement autant que possible, il y a toujours des moments où on va juger, malheureusement, très peu d'entre nous vont atteindre un certain éveil spirituel ou de conscience, et on va être dans le non-jugement absolu, peut-être. Peut-être que ça nous arrivera, peut-être que ça nous arrivera pas, il y a des choses qu'on va continuer de juger malgré tout, mais peut-être on va essayer de les juger un peu moins fort, un peu moins longtemps, un peu moins en réaction. On va mettre plus de conscience sur notre réaction, sur dire « Ah, bah tiens, je me rends compte, tiens, ça, je juge encore, ça, ouais. » Ça, je pense qu'il y a du mieux, qu'il y a du moins bien, qu'il y a une bonne réponse, qu'il y a une mauvaise réponse, etc. Et donc, si tu as envie de cette qualité de relation-là, bah, toi, tu en sois l'un des porteurs, l'un des garants de cette qualité-là. C'est pas juste quelque chose que tu attends de l'autre, sans que toi, tu t'impliques énormément là-dedans à être aussi garant, à être aussi porteur, à être aussi gardien de tout ça, quoi. C'est vraiment important de se dire bah, « Moi, je vais être la personne qui permet ça. » Bien sûr, il va falloir une personne en face qui a envie de vivre ça et qui permet ça elle aussi également. Donc ça va être important d'être avec une personne qui a des inspirations de couple, on va dire, assez similaires et ces qualités-là, qui a fait peut-être un certain travail personnel pour en arriver là. Mais que tu sois vraiment porteur de ça, quoi. Ça vient pas juste de l'autre, c'est pas juste l'autre qui permet ça, c'est toi aussi, tu peux permettre ça, à condition déjà de le vouloir dans un premier temps, et peut-être de devoir faire un travail personnel, de développement personnel, thérapeutique, de guérison, peu importe tes enjeux, peu importe tes challenges, peu importe tes blessures, peu importe tes traumas, il y a sûrement des choses à aller un peu déblayer, des choses à nettoyer, des choses à aller penser, des choses à aller apprendre, soit des parties de toi à aimer ou des choses à découvrir, etc., qui va te permettre cette qualité-là de relation derrière. On va passer tout de suite au non-jugement, peut-être faire un peu plus court. Que les derniers podcasts aujourd'hui, on va voir comment ça se trame, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire sur le non-jugement. Ce qu'il faut comprendre pour moi, c'est s'il y a du jugement, bah, tu vas créer de la distance, tu vas créer une distorsion de la réalité aussi. Ça veut dire qu'il y a un mieux et un moins bien, voire pire, il y a un pas bien et il y a un bien. Ça veut dire que bah, la réaction de ma partenaire, par exemple, dans mon couple, ça veut dire que si je juge, bah, je peux penser qu'elle aurait pu réagir mieux ou moins bien. Bien ou pas bien, etc. Tu vois, donc des fois il y a du jugement positif aussi, bien sûr il y a du jugement négatif aussi. Parfois ce jugement il va porter sentiment de se sentir plus intelligent, plus malin ou quelque chose d'autre, quoi. Il y a une notion de je suis mieux que toi, je sais mieux que toi, j'ai plus d'expérience de vie, ou je suis juste plus intelligente, un peu bête, ou j'en sais rien. Il y a quelque chose du plus et du moins bien, quoi, j'ai mis l'autre sur un piédestal, ou au contraire, bah, c'est moi qui, je me mets moi sur le piédestal et je regarde l'autre de haut, quoi. Il y a vraiment ce côté, donc on va casser l'équilibre, on va perdre l'égalité dans le couple, on va perdre l'équilibre plutôt que le casser, on va casser l'égalité. Et du coup, même si tu connais l'autre depuis un moment, hein, ou pas, t'es un jeune couple, t'es un vieux couple, peu importe, mais, tu vois, des fois tu vas connaître l'autre, tu vas peut-être connaître un peu ses, on va dire, ses défauts, ses faiblesses, ses vulnérabilités, les endroits où il est moins brillant, où elle est moins brillante, les endroits où c'est un peu plus compliqué. Et donc toi, dans ces moments-là, comme tu connais un peu l'autre, que tu as déjà jugé l'autre, tu as posé du jugement sur ses capacités, sur qui il était, sur comment il était, sur comment elle était, et tu, voilà, tu vas peut-être penser que dans ces moments-là, bah, tu sais mieux, tu as la bonne idée, c'est toi qui as la solution, que l'autre ne comprend pas. Et là, l'invitation, si tu rentres un peu dans ce jeu-là qui est pas sain, je trouve, pour une relation, et qu'on fait tous, encore une fois, je suis le premier à le faire aussi, aussi peu souvent que possible, mais je suis toujours le premier à le faire, et j'imagine que tu le fais aussi, du moins c'est mon observation de ce que je vois autour de moi, je connais pas grand monde qui ne rentre pas là-dedans, et ben, il faut se rappeler, c'est pour ça que je fais le podcast et que j'en parle, c'est parce que j'ai plutôt tendance à voir que la majorité des gens rentrent dedans les deux pieds joints, quoi, sautent à pieds joints dedans. L'invitation, c'est de se rappeler humblement que, même si tu penses mieux savoir, même si tu penses que tu as la bonne idée, bah, peut-être que tu te trompes, c'est peut-être toi qui as tort. Et aussi, peut-être que si tu n'avais pas raison, c'est une option déjà, c'est possible, hein, tout à fait. Et puis, ça veut dire quoi, avoir raison? Et aussi que, bah, peut-être que tu penses avoir raison parce que c'est de ton point de vue avec toi, avec qui tu es, avec tes croyances, avec tes expériences de vie, ton passé, avec qui tu n'as... Donc c'est comme si ça faisait du sens dans ton univers à toi, quoi. Dans l'univers de l'autre, qui n'est pas le tien, dans l'autre qui n'est pas toi, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est la bonne réponse? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Voilà, j'invite peut-être à prendre un peu de recul, à se poser un peu la question, à être humble, se rendre compte que voilà, quand tu considères l'autre comme quelqu'un qui sait moins bien que toi, ou si tu penses que toi tu sais mieux, bah, comprends que tu vas mettre une étiquette de moins capable, voire d'incapable sur l'autre. Pour moi, c'est dangereux de cultiver ça, des endroits, des événements, des choses dans la relation où on met l'autre en dessous, on se met au-dessus. Je vais te détailler un peu plus tard, dans la fin du podcast, peut-être quelques pièges habituels dans lequel on peut tomber au lieu d'être dans du non-jugement et dans l'accueil, et ça en fait partie, quoi. Donc, l'invitation, c'est autant que possible, aussi souvent que possible, voir l'autre comme un égal, voir l'autre comme indépendant, voir l'autre comme souverain, et malgré bah, les différences, malgré les difficultés, malgré les incapacités parfois qu'a l'autre, bah, les complications, les blessures, les traumas, peut-être que l'autre, on peut considérer qu'il est capable. Voilà. Peut-être que du coup, ça veut dire qu'il va prendre un autre chemin. S'il ne va pas prendre la solution que nous on avait vue, que nous on aurait pris, qui aurait fonctionné pour nous, peut-être que ça passera par autre chose, peut-être que ça prendra plus de temps, moins de temps que nous, peut-être que ce sera plus rapide, des fois on est bluffé d'une réaction de notre partenaire à une expérience de vie, t'es là, ouais, ils ont rebondi trop vite, quoi. Moi quand je prends ça dans la tête, entre guillemets, quand je prends cette claque de la vie, j'en chie un peu plus, quoi. C'est un peu plus dur pour moi, quoi. Surtout que c'était pas une petite claque, c'était vraiment une grosse claque, et du coup c'est particulièrement délicat, et moi j'ai cette blessure-là, j'ai cette croyance-là, j'ai ces trucs-là qui font que pour moi c'est compliqué, et puis là, vraiment surpris et impressionné par mon partenaire, parce que la réaction a été rapide, quoi. Donc ça peut être, voilà, ça peut prendre plus ou moins de temps, plus ou moins la même solution, plus ou moins le même chemin, ça peut être comprendre et accepter aussi que l'autre il va être bloqué un certain temps, que peut-être que toi, ça te semble évident de comment passer à l'étape d'après, quoi. Comment résoudre ce souci-là, comment dépasser ce challenge-là, comment te sortir de cette situation dans laquelle il y a du mal-être, il y a de la tristesse, il y a de la colère, il y a quelque chose. Toi, ça te semble évident de comment sortir de ça, mais rappelle-toi que, humblement, comme je disais tout à l'heure, que bah, tu n'es pas l'autre, que l'autre il a des capacités différentes, des croyances différentes, un passé différent, c'est pas la même personne que toi, et du coup, bah, la réaction va pas être la même. Donc voilà, il peut y avoir ces blocages, il peut y avoir une autre manière de faire, il peut y avoir une temporalité qui est différente, et peut-être qu'il y a plein d'autres choses aussi qui peuvent influencer ça, et qui fait que l'autre ne va pas réagir comme toi t'aurais aimé, comme toi t'aurais pensé, comme toi t'aurais projeté, et comme toi t'aurais fait. Et peut-être aussi rajouter que le non-jugement, c'est pas l'inaction, c'est pas le manque de soutien ou l'absence de soutien, c'est pas le fait de ne pas aider ou de peu aider, ou de ne pas accompagner ou de peu accompagner, c'est, pour moi, c'est se positionner dans un endroit qui est peut-être plus juste, plus neutre, pour co-créer, pour évoluer dans une relation qui me semble plus saine, et pour garder et continuer de créer cette image saine de notre partenaire. En fait, si tu commences à créer, comme je te disais tout à l'heure, c'est, pour moi, c'est dangereux de cultiver une image d'incapacité, et on a tous des incapacités, on a tous des vulnérabilités, il y a tous des choses où on est plus ou moins bon. Moi, il y a des choses sur lesquelles je suis pas bon, il y a des choses sur lesquelles je suis pas un grand bricoleur, j'ai jamais bricolé, on a acheté une maison, il y a plein de choses que j'apprends à faire au niveau du bricolage, et des fois, quand je perce des trous, c'est pas parfait, etc. Bon, on trouve toujours une solution, mais tu vois, donc là, je pourrais être vulnérable vis-à-vis de ça, vis-à-vis de mes compétences que j'ai, qui sont fraîches, qui sont fébriles en termes de bricolage, de choses que je peux faire, de choses que... Voilà. Et du coup, si je me sentais jugé, si je me sentais attaqué, si je me sentais reproché, j'aurais moins envie de le faire encore, tu vois. Si je suis dans une relation où, malgré cette faiblesse, on va dire, ou ce manque d'expérience, ou ce manque de capacité de faire certains travaux que j'ai jamais fait, etc., je te donne plusieurs manières de le regarder, en fait. Tu peux le regarder de manière très neutre et dire, c'est juste qu'il n'a pas vécu ça dans sa vie jusqu'à présent, donc il faut qu'il apprenne, c'est normal. Ou tu peux avoir l'attente qu'un homme de mon âge sache bricoler parce que c'est le rôle de l'homme, etc., et me juger. Et peu importe, en fait. Donc, tu vois, tu peux avoir plusieurs postures. Et là, le non-jugement, c'est vraiment là où je veux en venir. C'est vraiment une posture qui est plus juste, qui est plus neutre. Et du coup, derrière, va en découler tes actions, va en découler tes mots, va en découler tes pensées, va en découler tout le reste, en fait, qui fait que ça va mieux se passer dans la relation. Donc, si tu trouves cette posture qui est plus juste, tu vas vraiment créer quelque chose de plus sain dans ta relation, de plus épanouissant, de plus nourrissant, et où l'autre va se sentir « Ok, là, je suis débutant. Ok, là, je suis pas très bon. Je suis pas très adroit avec mes pieds, avec mes mains, j'en sais rien. Tu vois, ce genre de choses-là. Ok. » Et en même temps, du coup, je vais pouvoir construire, si je reprends le bricolage, moi, je vais pouvoir construire ma confiance, je vais pouvoir construire mon expérience, je vais pouvoir prendre des projets un peu plus gros petit à petit, acheter des outils qui sont un peu plus difficiles à manier ou que j'ai jamais manié, comme, je sais pas, un truc pour découper du bois, j'en sais rien, faire un escalier moi-même dans le jardin, ce genre de trucs qu'on pense à faire que j'ai pas encore fait, regarder des tutoriels, me renseigner avant, aller en magasin, discuter avec des professionnels, discuter avec des amis qui l'ont déjà fait, construire cette confiance, construire cette capacité à faire, en fait. Tu vois, dans un cadre de non-jugement autant que possible, dans un cadre d'accueil autant que possible, et on va aller voir l'accueil un peu plus tard, mais vraiment, ça permet à l'autre de faire aussi, d'explorer, de faire des erreurs, de grandir, ça permet vraiment pas mal de choses, et je trouve que c'est vraiment un cadre qui est plus sain pour une relation de couple. Et ce que je trouve, qu'on fait beaucoup, c'est à cause de notre ego, à cause de nos blessures, à cause de notre insécurité, c'est de là qu'on va juger. Parce que moi, je me sens pas bien, donc j'ai besoin de me... Moi, je l'ai fait beaucoup quand j'étais ado, des périodes où j'étais mal, en fait. Mais quand il y avait quelqu'un que je mettais sur un piédestal dans certaines parties de leur vie parce que ils étaient plus beaux gosses ou ils étaient meilleurs en sport, etc., il fallait que je trouve une manière de les rabaisser, en fait, ces gens-là. Et des fois, en direct avec eux, quoi. Des fois, dans leur dos, avec des amis, à côté des potins. Mais des fois, vraiment, je me souviens, une fois, j'avais été convoqué par la principale parce que un de mes collègues de ma classe avec qui j'étais en sport-études avec, etc., qui était plus sportif que moi, plus beau gosse que moi, etc., et je le rabaissais intellectuellement parce que j'avais un peu plus de capacités là, et lui, il en avait d'autres ailleurs, et je me servais de ça, de mes bonnes notes, du fait que je sois plus sérieux à l'école, etc., et je sais même pas si je suis plus capable que lui intellectuellement, mais j'avais des meilleures notes, j'étais plus scolaire, on va dire, à ce moment-là de ma vie, et du coup, je me sentais supérieur intellectuellement, et du coup, je le rabaissais vis-à-vis de ses notes, vis-à-vis de sa participation au cours, vis-à-vis de son bulletin, vis-à-vis de ses trucs. On était à l'internat ensemble, etc. Et je m'étais fait convoquer par la principale, ce qui disait, t'es un peu une brute, entre guillemets, quoi. Tu me rabaisses, moi je me sens pas bien, etc. Il en avait parlé, et moi je me rendais pas compte de ça, quoi. De vraiment que mon inconfort, mon insécurité, allait créer quelque chose de nocif dans cette relation que j'avais avec ce collègue de classe, ce collègue d'internat, ce camarade, quelqu'un que j'apprécie à plein de niveaux. On faisait des soirées ensemble, on faisait plein de trucs. Mais il y avait vraiment mes blessures à moi, mes insécurités à moi, qui faisaient que j'avais besoin de rabaisser l'autre pour me sentir bien. Donc là, c'est ça qui peut nous pousser à juger. Ça peut être autre chose, ça peut nous pousser à jouer au sauveur, etc. On va en parler un peu plus tard, et là, ce qu'on se rend pas compte des fois quand on fait ça, c'est peut-être que quand tu fais une réflexion à la con, sur le coup, ça n'a pas vraiment d'impact. Ça en a un, mais c'est assez minime. C'est plus quand tu le fais, encore une fois, toujours, c'est l'accumulation, c'est sur les 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est sur le moyen long terme, que tu vas dégrader ta relation, que tu vas abîmer ta relation, que tu vas abîmer l'autre aussi, peut-être. La confiance qu'il a, son amour propre de lui, tu vas être vraiment dans le... Et moi, j'ai plusieurs... avec plusieurs partenaires dans ma vie, il y avait des faiblesses psychologiques, on va dire, à cause de maltraitance dans l'enfance, de choses comme ça, des faiblesses dans le corps, des choses qui font qu'il y a certaines incapacités par rapport au corps fonctionnel d'un homme qui est plus fort et qui a pas de douleur, par rapport à quelqu'un qui a pas eu des traumas énormes dans sa vie d'enfance, et du coup, pas de problème de crise d'angoisse, pas de problème de ce genre de choses, et gère mieux ces choses-là naturellement, parce que juste j'ai eu de la chance, en fait, tout simplement. Et du coup, j'ai eu ces périodes-là de ma vie où vraiment, où j'ai un peu été testé de voir, tu vois, en même temps, faut soutenir l'autre, en même temps, faut aider, en même temps, faut accompagner, et en même temps, il faut trouver cette posture juste du non-jugement, de la non-supériorité, de la non-infériorité envers eux, etc. Parce qu'il y a d'autres endroits où ces femmes-là, elles étaient plus capables que moi, elles étaient plus courageuses des fois, etc. Il y avait donc d'autres endroits où elles auraient pu me juger, où j'aurais pu être celui qui était moins. Et si on avait créé une relation dans laquelle, moi, je les juge sur certaines choses et je les mets en moins sur ces choses-là, et elles me jugent en moins et elles me mettent, d'une manière ou d'une autre, elles me le font ressentir, et moi, d'une manière ou d'une autre, je leur fais ressentir. Tu comprends pourquoi il y a de la toxicité dans la relation qui est présente, quoi, et qui, avec le temps, qui va devenir peut-être quelque chose de très toxique, quoi, parce qu'on n'a pas arrêté de se juger. Et le non-jugement, il permet cette posture plus juste, il permet ce recul, il permet cette... Et en même temps, c'est pas du jugement foutisme, c'est pas du détachement, du désintéressement, c'est vraiment du... Ok, je suis présent, je suis là avec toi, je vais essayer de t'accueillir comme tu es, et c'est pour ça qu'on va parler de l'accueil et du non-jugement, c'est pour ça que j'en parle ensemble, mais ça permet vraiment ça. Et donc, ta capacité d'accueil, si t'es dans le non-jugement, et si tu n'es pas dans la réaction à ce que, ou si tu ne juges pas la réaction de ce que l'autre vit, parce que tu peux juger aussi qui il est en tant que personne, son être, tu peux juger son faire, sa réaction à une situation, tu vas pouvoir, si tu es dans le non-jugement et que tu as envie d'accueillir, tu vas pouvoir accueillir les joies, les tristesses, les colères, les détresses, les questionnements, la tristesse, enfin, tu vas pouvoir accueillir tout ça parce que tu vas pas juger et tu vas être là, ok, c'est ok, tu as le droit d'être heureuse, extatique, joyeuse, orgasmique, tu as le droit de tout ça et tu as le droit en même temps d'être triste, colérique, déprimée, pas bien dans ta peau ce jour-là, t'as le droit en fait de vivre les vagues de la vie, des émotions d'un être humain, en fait, t'as le droit de tout ça, c'est ok de vivre tout ça. Et on vit dans un monde où, au travail, il faut pas montrer ses émotions, avec les amis aussi, des fois, dans la famille, etc. Donc, on est dans un monde où il faut se cacher tout le temps, mettre des masques, mettre des voiles, mettre des choses, physiquement ou pas physiquement, des fois, dans certaines cultures, on va se cacher physiquement aussi, et dans d'autres cultures, on va se cacher émotionnellement, tu vois. Mais on vit vraiment dans ce monde où il y a besoin de ce contrôle-là, entre guillemets. On ne peut pas être qui on est. Moi, j'étais manager dans des boîtes. On attendait de nous que nos collaborateurs, les gens de notre équipe, ils soient pas... qu'ils fassent pas trop de vagues, entre guillemets. Donc pour certains, ça voulait dire mettre une muselière, ça voulait dire mettre un boulet au pied, ça voulait dire ne pas s'exprimer, se retenir et accumuler de la frustration. Il y a plein de choses que ça a amené, et ça aurait été compliqué en même temps de laisser tout le monde s'exprimer, d'être pleinement eux-mêmes dans une entreprise, etc., dans le cadre d'une boîte. Et en même temps, c'est aussi souvent des choses qui sont mal vécues, qui sont compliquées. Donc moi, je pars du principe, peut-être des croyances que j'ai autour du couple qui transpirent à travers ce podcast et d'autres, c'est que dans le couple, tu as le droit de vivre ça, tu as le droit d'être quitté. C'est un endroit dans lequel c'est possible. C'est une opportunité, peut-être que des gens ne veulent pas vivre ça dans le couple et c'est peut-être pas le bon podcast pour eux. Moi, je pars du principe que dans ton couple, tu as le droit à l'authenticité, tu as le droit d'être qui tu es et donc d'être avec quelqu'un qui ne va pas te juger autant que possible, aussi souvent que possible, qui va apprendre à ne plus faire ça quand il s'attrape, entre guillemets, à le faire, essayer de déconstruire tout ça petit à petit, et quelqu'un qui va t'accueillir comme tu es, dans le positif ou dans le négatif, entre guillemets, dans les choses qui sont plus joyeuses. Est-ce que c'est vraiment positif et négatif, c'est une autre question, mais c'est intéressant de se le demander aussi. Est-ce que parfois, une tristesse, une colère, une dépression, c'est pas juste nécessaire, en fait. Ça permet de savoir qu'il y a des choses qui vont pas dans notre vie, ça permet de réajuster, ça permet de se rendre compte des choses auxquelles on tient, ça permet de réaligner pas mal de trucs, quoi, de traverser des choses... émotionnellement compliqué, bien sûr, c'est pas confortable. Et en même temps, est-ce que ça va être confortable, la vie? Ça, je sais pas. J'ai pas le sentiment que la vie doit être confortable. On vit quand même dans une société, dans une vie de confort par rapport aux générations précédentes. Mais est-ce que c'est vraiment ça le but de la vie, d'être confortable? Je suis pas sûr. Je suis pas convaincu, du moins. Plutôt l'inverse, mais on peut laisser un peu la question ouverte, on sait, sans trop savoir, pour garder une certaine curiosité. Mais voilà. Donc, quand tu vas pouvoir accueillir tristesse, joie, les extrémités, enfin les extrêmes des émotions ou l'entre-deux, les mélanges un peu tout ce que vit l'autre, ça reste encore une fois son être, son faire, comme il est et qu'est-ce qu'il fait. Moi, ça, je trouve que ça permet une ouverture du cœur, une ouverture des oreilles, éventuellement des bras, pour être simplement là, sans chercher à faire ce qu'on aurait aimé que l'autre fasse pour nous. Hein, souvent, peut-être que je peux te parler de ça rapidement, j'avais pas prévu, j'avais laissé de côté exprès, mais peut-être que ça sera intéressant. Il y a cette chaîne YouTube, je t'en parle parfois, qui s'appelle The School of Life, donc c'est l'école de vie, de la vie, qui partage pas mal de petits conseils, des petits conseils pratiques. C'est une, comment dire, une chaîne entre philosophie et psychologie. Et ils te disent que peut-être il y a 5 manières de laquelle on peut aider les autres. Donc il y a l'écoute, donc voilà, c'est souvent ce qu'on va dire ce que les femmes ont besoin, si je prends un stéréotype, simplement écouter. Il y a la deuxième, c'est les solutions, qui est typiquement plutôt masculin. C'est pour ça que quand nos chéries viennent nous parler, on a du mal à écouter, on est dans l'action les hommes, et ça les énerve, et elles aimeraient bien que leur mec soit comme leur copine, à qui elles peuvent se confier sans qu'il y ait de solution. Bien sûr, il y a des hommes pour qui c'est différent, bien sûr, il y a des femmes pour qui c'est différent, hein, mais il y a souvent un peu de vrai dans les clichés, dans le stéréotype, même si c'est pas toujours vrai, ou c'est pas toujours bon, du moins, ces stéréotypes-là, des fois, il faut les casser, les transcender, les changer. Mais tu as ces deux premières choses, donc l'écoute sans solution, rien, juste de l'écoute active, de l'écoute empathique, trouver des solutions, une énergie plus yang, plus masculine, et il y a être positif, optimiste, donc dire que tout ira mieux, etc. Être pessimiste, donc pour la quatrième, dire que c'est la pire des choses, que ton manager c'est le pire des connards, que je sais pas quoi, vraiment casser du sucre sur... Enfin, être dans la négativité, entre guillemets. Alors peut-être que dans le pessimisme, il faut pas y rester des heures, mais moi je suis quelqu'un d'optimiste, et je me suis rendu compte quand j'étais manager, ou quand j'avais... J'ai pas eu de partenaire pessimiste, je crois, mais... surtout quand j'étais manager, du coup, j'avais beaucoup de mal avec les pessimistes, parce que je leur permettrais pas d'être pessimiste, en fait. J'allais tout de suite dans l'optimisme. Et ces gens-là, ils ne se sentaient pas écoutés avec moi jusqu'à ce que je comprenne ça. Et un jour, je me suis dit, ok, peut-être on va se permettre 5 minutes de pessimisme avec eux, on va voir ce que ça change. En étant conscient de ma position de manager, que je représente la boîte, que je représente plein de trucs, mais voilà, se permettre d'autoriser le pessimisme et de ne pas pousser mon insécurité du pessimisme parce que je suis quelqu'un d'optimiste, mais j'aime pas le pessimisme, entre guillemets, naturellement, et essayer de les convertir au pessimisme et de les faire transformer vers aller vers le pessimisme, l'optimisme, alors qu'ils n'étaient pas prêts, qu'ils n'avaient pas envie, que ce n'était pas le moment, etc. Peut-être plus tard, oui. Et il y avait souvent l'accueil du pessimisme. La cinquième chose, donc c'est les câlins, c'est juste se prendre dans les bras, le contact physique. Donc tu as écouté, donné des solutions, optimisme, pessimisme et câlin. Donc c'est 5 choses qu'on veut, par exemple. Donc tu vois, là, au lieu de donner ce que toi t'aimerais, donc on va dire que t'es le stéréotype du mec, t'as un problème, tu vas trouver des solutions, peut-être que ta chérie, elle veut juste être écoutée. Donc est-ce que tu es capable d'écouter? Est-ce que tu as appris à écouter? Est-ce que tu as développé la capacité d'écoute empathique? Est-ce que tu sais faire tout ça? Est-ce que tu sais pas faire ça? Est-ce que tu as besoin d'apprendre ça pour vraiment être un partenaire qui peut soutenir? Donc apprendre à écouter et apprendre à donner à l'autre ce qu'il a besoin, en fait. C'est vraiment important, ça, de donner à l'autre ce qu'il a besoin. Parce que moi, j'ai besoin que je donne à l'autre, parce que je pourrais te parler des 5 langages d'amour et du fait qu'on aime comme on aime être aimé. C'est pareil avec les cadeaux. Si tu regardes les cadeaux que tu fais des cadeaux que tu aimerais recevoir. La majorité d'entre nous, on fait des cadeaux qu'on aimerait recevoir. Et quand, des fois, nous, on reçoit des cadeaux, et moi, j'ai reçu des cadeaux, j'en ai quelques en tête, je vais pas les donner, parce que c'est les personnes qui écoutent le podcast, mais j'ai reçu des cadeaux qui étaient clairement pas quelque chose qui était, dans mon univers à moi, ça faisait peu de sens, et en même temps, dans leur univers à eux, c'était logique, et donc voilà, ils m'ont offert ce cadeau-là, donc c'est un cadeau pour eux qu'ils ont fait, entre guillemets, ou avec leur prisme à eux, leurs lunettes à eux, leur vision du monde à eux, et pas quelque chose qui était centré sur moi. Si c'était centré sur moi, ça n'aurait pas été ça le cadeau. Donc tu vois, on a tendance à aider, aimer, accompagner, faire des cadeaux comme on aimerait les recevoir. Donc c'est trouver un espace de dialogue, un espace d'accueil, un espace de non-jugement pour permettre à l'autre de se connecter à ce qu'il veut, de qui il est, et éventuellement de nous dire, là, écoute, j'ai besoin d'être écouté, etc. Et peut-être que l'autre, il a besoin de quelque chose, peut-être que l'autre, il a besoin de rien, peut-être que l'autre, il a besoin d'une action, d'une décision, un tas d'autres choses, un câlin, du pessimisme, de l'optimisme, autre chose. Et donc là, un peu, pour continuer et étendre un peu là-dessus, quoi, c'est l'invitation ici, donc c'est ne pas être en réaction. Donc on est dans le non-jugement et dans l'accueil, on n'est pas agité par ce que vit l'autre, on n'est pas sans conscience, entre guillemets, de ce que vit l'autre et de notre réaction vis-à-vis de ce que vit l'autre ou de ce que fait l'autre. On prend de la conscience de notre réaction et on choisit le non-jugement, on choisit l'accueil. Que ce soit avec... et tu vois, des fois, la réaction, elle peut s'exprimer de plein de manières. Et je prends souvent cet exemple de rassurer l'autre. L'autre vient nous voir en pleurant, en n'étant pas bien, il y a un truc qui s'est passé dans leur vie, au travail, etc. Et tout de suite, on fait ça avec les enfants tellement. Moi, ça me fait mal au cœur parce qu'à chaque fois... Alors, oui, bien sûr, des fois, il faut rassurer un enfant, mais quand c'est notre réponse automatique, que tu réfléchis pas, que tu rassures tout le monde tout le temps, c'est chiant. Moi, des fois, j'ai pas envie d'être rassuré. Et malgré qu'on sache tout ça, des fois, je rassure ma compagne et des fois, elle me rassure. À des moments où on n'a pas envie d'être rassuré, on se le dit. Là, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin que tu me rassures. Ça me tend, ça m'énerve, ça me frustre. C'est pas ce que j'ai besoin, en fait. Et du coup, ça me referme. J'ai pas envie de te parler, j'ai pas envie de continuer de partager, j'ai pas envie de continuer de te montrer ma vulnérabilité, j'ai pas envie de te raconter ce que je vis parce que ta réaction, elle est pas appropriée, en fait. Et ça, je sais pas si toi, tu l'as vécu, mais c'est important de se rendre compte de ça, de se rendre compte qu'il y a des moments où la réaction de l'autre, elle m'a refermé. Elle m'a donné un signal comme quoi c'était pas ok d'être comme je suis, de vivre ce que je veux, de faire ce que je veux, de dire ce que je veux. C'était pas ok avec lui, avec elle. Il y a un truc qui allait pas, il y a un truc qui matchait pas. Ça peut être rassuré, ça. Qui va pas, qui matche pas. Ça veut pas dire qu'il faut pas rassurer, mais si l'autre me dit, là, écoute, j'ai besoin d'être rassuré, je suis apeuré, j'ai peur de ce truc. Dis-moi que tu vas bien. Peut-être c'est du pessimisme, peut-être c'est, tu mets le mot que tu veux, si tu fais le lien ou pas avec les cinq choses que les gens ont besoin pour se sentir soutenu ou aidé. Mais voilà, besoin d'être rassuré, besoin d'être soutenu, besoin d'être réconforté. Ok, je vais le faire, parce que c'est son besoin à elle, parce que c'est son besoin à lui. C'est pas moi qui naturellement fais ça, parce que je le fais avec tout le monde. Mais c'est là l'importance de la prise de conscience de comment on réagit, de ce qui nous agit, etc. Alors une fois, voilà, tu peux rassurer l'autre. Souvent, ça va être, comme je te disais tout à l'heure, un peu le stéréotype du « il y a un problème, je donne une solution ». Je connais des femmes qui font ça très bien. Un petit clin d'œil à ma chérie, mais je suis, enfin voilà, c'est pas du tout un blâme, je fais plein de choses similaires aussi, qui sont pas toujours justes, ma réaction n'est pas toujours juste naturellement, faut encore qu'on se pose la question, faut encore que l'autre nous le dise, etc. Et donc là, au lieu d'être dans la réaction automatique, on va dire, qui est le par défaut, qui est la moins bonne réponse peut-être qu'on peut avoir, c'est d'aller vers quelque chose de plus affiné, de plus ajusté, de plus conscient, de plus juste pour l'autre, tout simplement, et de permettre à l'autre d'exprimer ce qu'il a exprimé, de vivre pleinement ce qu'il a à vivre, et de demander de l'aide. Et oui, bien sûr, quand c'est, tu verras que l'autre ou toi, des fois, tu vas avoir du mal à dire ce que tu veux. C'est pour ça que je te parlais des cinq choses dont on a besoin. Déjà, ça te donne une base de dire, là, écoute, je sais pas ce que je veux, mais s'il y avait un truc dans ces cinq choses, donc écoute, solution, optimiste, pessimiste, câlin, s'il y avait un truc qui a l'air de m'attirer un peu plus que les autres, c'est ça. On va essayer, on verra bien. On essaie un peu, câlin, non, en fait, j'ai pas envie de toucher physique, là, ça m'irrite, ça m'agace, ok. Peut-être que du coup, c'est de l'écoute, ok. Écoute-moi, je vais parler. Ah ouais, ça va vachement mieux, c'était de l'écoute que j'avais besoin. Ok, très bien. Peut-être qu'il y avait de l'écoute, puis dans 2 heures, besoin d'une solution. Peut-être qu'il y avait besoin de passer par la première option, puis après par la deuxième, mais 2 heures plus tard, une fois que l'écoute a eu lieu. Moi, je l'ai vu beaucoup dans la séance clientèle, quand j'ai passé 10 ans à faire ça, à parler aux gens, à répondre aux emails, etc. Et je me rends compte que donner une solution à quelqu'un qui n'était pas prêt à l'entendre, c'était compliqué. Ils avaient un problème, ils avaient quelque chose qui les frustrait. Mais une fois que je les ai écoutés, une fois qu'ils ont compris qu'on a créé comme une alliance, qu'on a créé l'équipe, qu'on va régler ce problème-là à deux ensemble, ils étaient prêts à écouter ma solution. Alors que si je leur avais donné la solution sans les écouter 5 minutes avant, ils m'auraient renvoyé dans la gueule en me disant que c'est pas à cause de ça, que le problème il est ailleurs, que c'est avec nos systèmes. Et là, une fois que je les ai écoutés, il y a l'alliance. Il y a la connexion, il y a l'équipe, on travaille ensemble, ils sont prêts à écouter, ils sont prêts à essayer. J'ai donné la même solution, j'ai pas donné une autre solution, c'est juste que j'ai pris soin de ce qui était émotionnel d'abord, de l'émotionnel, pour ensuite passer au rationnel. Voilà, et comme l'autre, peut-être qu'il sait pas ce dont il a besoin, donc avec ce, encore une fois, c'est écoute, solution, etc., tu vas, si t'as quelqu'un qui te permet cette qualité de relation, cette position plus centrée, cette position plus juste, qui va pas jouer au sauveur, qui va pas jouer au trouveur de solutions quand il n'y a pas besoin, etc. Toi, ça va te permettre, ou tu vas permettre à ton ou ta partenaire de découvrir ça, de découvrir de quoi j'ai besoin, de faire ce travail-là, de faire ce chemin-là, d'aller vers plus d'authenticité, plus de ressources, peut-être se rendre compte que, en fait, ah non, ça je peux gérer tout seul, je sais de quoi j'ai besoin. En fait, j'ai besoin de personne pour me donner ça, en fait, j'ai besoin de prendre soin de moi, je vais aller prendre un bain, je vais aller marcher dans la nature, je vais aller me faire un automassage, je vais aller écouter une musique qui me fait plaisir, je vais danser, je vais manger un truc qui me fait plaisir, et voilà, et en fait, j'ai pas besoin que tu me sauves, j'ai pas besoin que tu le fasses pour moi, ok, je suis capable de faire ça tout seul, donc Tu permets aussi à l'autre de gagner en autonomie, en résilience, en authenticité. C'est vraiment super aussi de faire ce chemin-là à deux, que la relation, elle permette à l'autre d'éclore, de fleurir, de se connecter à son authenticité, à qui elle est, quoi. Donc c'est aussi pour ça que moi, c'est deux choses qui me semblent essentielles, cette capacité d'accueil, cette capacité de non-juger, et d'avoir une posture qui est un peu plus juste, qui peut paraître un peu plus froide, un peu détachée, mais non, on fait ça parce qu'on aime, on fait... Tu vois, quand tu rassures quelqu'un, t'as le sentiment de l'aimer, des fois, de te dire, ah ben, ça va aller mieux, c'est parce que ah, ton cœur, il pince aussi, etc. Ben, ouais, mais là, t'es en train de lui dire, c'est pas OK, comme t'es en train de lui dire, avec moi, t'as pas le droit d'être toi-même, parce que je vais faire quelque chose automatiquement que t'as peut-être pas envie de recevoir, et ça va te refermer, mais je vais le faire quand même. Je sais pas si c'est vraiment de l'amour, ça, en fait, tu vois. Je sais pas si c'est vraiment de l'amour. Quelques pièges à éviter. Je t'en ai plus ou moins parlé, directement, indirectement, que je voulais amener, peut-être énoncer clairement. On va en voir 3 ou 4 ensemble, pas plus que ça, il y en a bien d'autres, mais ça fera déjà pas mal. Donc le premier piège, c'est trouver la solution à la place de l'autre. Je vais pas développer plus que ça, parce que j'en ai déjà pas mal parlé, plus que ce que j'avais préparé dans mes notes, donc je vais peut-être pas en remettre une couche ici, mais c'est comprendre que l'autre n'a pas toujours besoin d'une solution. Et des fois, notre solution à nous, comme je te disais tout à l'heure, être humble, c'est pas la bonne. On a beau penser savoir, on a beau avoir déjà vécu ça et se dire « Ah bah oui, ça va être forcément comme ça ». Moi, je l'ai vu plein de fois. Je me rends compte que quand je suis avec des hommes plus vieux ou des femmes plus vieilles, ils ont tendance à se positionner en donneur de leçons. Alors, au début, ça me cassait un peu les pieds, tu vois. Puis je me suis rendu compte que quand je suis avec des gens plus jeunes, je me positionne en donneur de leçons, comme si je savais... comment ça allait se passer pour eux, comme si je savais qui ils étaient vraiment, et si mes expériences de vie à moi étaient absolument les mêmes qu'eux, ils en tireraient les mêmes conclusions. Peut-être qu'il y a quelques sagesses que j'ai apprises qui sont pas universelles, mais qui sont peut-être voilà, bonnes à connaître, mais peut-être que je me plante complètement, en fait. Et des fois, j'essaie de m'arrêter, je me rends compte que, ah ouais, là, je suis en train de jouer au vieux con qui sait tout, quoi. Alors, bien sûr, des fois, c'est utile, en tant que doyen, on va dire, ou quelqu'un qui a vécu plus de choses que quelqu'un de plus jeune, bah, oui, bien sûr, il faut apprendre de la sagesse, c'est important. Moi, c'est ce que je te partage ici, c'est ce que j'ai appris d'autres personnes, c'est ce que j'ai appris de ma vie, et du coup, bah, il y a un peu cette position du vieux con qui donne des leçons, entre guillemets. Ça se trouve, être dans le jugement, être dans le nom d'accueil, c'est mieux pour certaines personnes, et ils le vivent très bien, et s'ils le vivent très bien, moi, j'ai rien contre. C'est juste que moi, je trouve que je le vis pas bien, et que j'ai trouvé que les gens le vivaient pas bien, et que globalement, les gens que je connais dans mon entourage, les gens de qui j'ai appris, bah, on est plus ou moins d'accord pour dire qu'avec de l'accueil et du non-jugement, ça se passe mieux dans le couple. Après, ça veut, voilà, c'est pas, on est d'accord entre nous, donc on pense qu'on a raison. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens pour qui c'est pas vrai et qui ont peut-être besoin de faire autrement, et c'est aussi OK, quoi. Pour eux, je suis à côté de la plaque, je ne donne pas les bons conseils, etc. Et c'est OK, quoi, qu'il y ait ce paradoxe ou cette opposition, entre guillemets, quoi, qu'on n'ait pas les mêmes idées, qu'on ne voit pas les choses de la même manière, parce qu'on est aussi des personnes différentes et qu'on n'a pas besoin de vivre le couple de la même manière, par exemple. Donc, il y a ça, trouver une solution à la place de l'autre pour l'autre. Il y a plusieurs raisons pourquoi c'est pas terrible. Jouer au sauveur, j'en ai mentionné un peu. Il y a le triangle de Cartman, non, que je sais plus, j'ai oublié le nom. Je sais pas si c'est Cartman, c'est South Park. Ce triangle du sauveur, persécuteur, victime, où bah, si tu te positionnes en victime, donc il y a quelqu'un qui va te sauver, et en fait, ce sauveur va devenir au bout d'un moment le persécuteur. Donc au début, c'est quelqu'un qui t'aide, après, c'est quelqu'un contre qui tu veux te battre, entre guillemets. Et ça crée des situations vraiment pas saines. Moi, j'ai basé mon mariage, entre guillemets, la personne avec qui j'ai été marié 5 ans, on a basé un peu là-dessus, quoi. On s'est vus tous les deux, on était blessés, on avait plein de trucs, et on s'est dit, ah, elle pensait me sauver à plein de niveaux, je pensais la sauver à plein de niveaux, et bien sûr, on s'est traîné ces casseroles-là tout le long de la relation, parce que, bah, on pensait que l'autre était moins capable à certains niveaux, on pensait que c'était à nous de trouver, on avait une responsabilité qu'on ne devait pas porter, enfin, tu vois, ça avait amené plein de choses de jouer au sauveur qui est pas bonne, quoi, et du coup, après cette relation-là, après ces prises de conscience-là, j'étais conscient au début de la relation que je jouais au sauveur, mais je ne m'en rendais pas compte de l'impact que ça aurait, de à quel point ça allait, entre guillemets, pourrir la relation, même si la relation était très belle, mais les petites choses que ça allait causer, les petites douleurs, les petites incompréhensions, les frustrations, les problèmes derrière, etc. Et j'ai oublié, j'ai perdu mon fil de pensée, donc ça reviendra plus tard, mais voilà. Le sauveur, j'ai essayé, c'est pas une bonne idée, il y a des gens qui vont essayer, c'est pas nécessairement une bonne idée. Ça veut pas dire que dans un moment de détresse, dans une crise de vie, dans un moment où vraiment il y a quelque chose qui dépasse, on va pas devoir prendre le rôle de sauveur, et peut-être pour cette chose-là, peut-être pour ce traversée-là, peut-être pour ce truc-là, il y a peut-être quelques moments précis où oui, on va devoir prendre un peu le rôle de sauveur et ça va être ok, quoi. Ça va être ça la posture juste parce que vraiment l'autre il peut pas, quoi. Il y a quelque chose de traumatisant qui est en train de se dérouler, il y a quelque chose ou qui s'est déroulé. Voilà. Mais attention à retrouver quelque chose de plus juste, de plus aligné, de rendre sa souveraineté à l'autre autant que possible, de l'aider peut-être à se faire accompagner, à, voilà, à faire le travail nécessaire de leur côté pour qu'ils regagnent ça, voilà. Et pas garder cette position de sauveur trop longtemps pour pas garder la distraction, enfin, pas la distraction, là, je suis en train de lire la ligne d'en dessous, le point d'après, la différence ou l'écart, ou voilà, ou le jugement qu'on met sur l'autre en disant, ben, moi, je suis mieux, je sais mieux, je suis mieux capable que, ou plus capable que toi, et du coup, c'est mon rôle, et voilà, c'est pas nécessairement un rôle qu'on a apporté non plus. Et peut-être que la dernière chose que je voulais amener, c'est. Et je mets de la nuance, j'aime bien souvent mettre de la nuance, c'est ne pas pousser l'autre à la distraction. Et quand je te dis rassurer, des fois, quand je te parle de rassurer l'autre, c'est ça, des fois, c'est distraire, entre guillemets, c'est éviter le problème, c'est contourner le problème, c'est éloigner du problème. Alors, bien sûr que des fois, quand ça va pas, quand il y a des traversées du désert, quand il y a des choses qui sont compliquées, il faut un peu de distraction, il faut s'occuper, on peut pas rester 16 heures par jour à ruminer une rupture, à ruminer un décès, à ruminer l'annonce d'une maladie grave. Des fois, c'est trop, quoi. Donc, oui, la distraction, des fois, elle a sa place. La télé, le jeu vidéo, ce genre de choses, faire des trucs sans réfléchir, dessiner du jardinage, j'en sais rien. Juste pour te distraire, pour pas que ce que tu vis, ce soit trop dur à vivre, en fait. Mais des fois, le problème, et ce que je vois beaucoup trop, c'est que la distraction, c'est la seule chose qui y est, en fait. Il n'y a pas de connexion au réel, il n'y a pas de faire face à la réalité. On est dans la distraction, on ajoute de la distraction, et parce qu'il y a de l'inconfort chez nous, quand je vois l'inconfort chez l'autre, quand je vois la souffrance chez l'autre, quand je vois les blessures chez l'autre qui sont réouvertes, ou qui sont stimulées, ou qui viennent d'arriver, ou le mal-être de l'autre, ça me fait tellement mal chez moi, c'est tellement difficile de voir quelqu'un qui souffre, quoi. Moi, je trouve ça difficile de voir ma partenaire qui souffre, j'imagine pas ce que c'est de voir mon enfant qui souffre, comme j'ai pas d'enfant, ce genre de choses, tu vois, d'avoir un proche, un parent qui souffre, c'est vraiment difficile, quoi. Et donc pousser à la distraction l'autre, parce qu'on ne sait pas faire face à nos propres douleurs vis-à-vis de leur situation à eux, de ce qu'on voit, de ce qu'on projette, ce qu'ils vivent, de ce qu'on ressent, ce qu'ils nous partagent, ce qu'ils vivent, bah, c'est vraiment délicat. Donc bien sûr, pourquoi pas la distraction à certains moments, d'utiliser avec parcimonie quand c'est nécessaire pour accompagner, pour permettre de traverser, etc. Des fois, c'est très bien. Et en même temps, attention à ne pas pousser notre inconfort de la souffrance de l'autre sur notre partenaire. Et du coup, pardon pour le bâillement un peu long. Et du coup, bah, les entraîner à passer à côté de ce que la vie était en train de leur apprendre, de ce que. Il y avait quelque chose là à régler, il y avait quelque chose à regarder, il y avait quelque chose à observer, il y avait une leçon à tirer de cette crise de vie, de ce questionnement, de cette tristesse, cette colère. Et du coup, bah, des fois, on n'en retire pas tout de suite la leçon. Des fois, il va falloir que ça revienne plusieurs fois et c'est OK aussi. Mais bah, trouver cet équilibre et prendre conscience que des fois, moi, je me surprends des fois à vouloir jouer au clown, entre guillemets, dans ces moments-là, à faire rigoler, à faire sourire, à dire, mais non, t'en fais pas, ça ira mieux. Et puis là, t'as vu, regarde ce truc-là, c'est trop marrant. Et puis ce machin, t'as vu ce Reels et tout. Ouais, ok. Je me rends compte que j'ai envie de faire ça, et des fois je m'autorise, et des fois je vérifie, est-ce que ça te ferait du bien, là, qu'on essaie de rigoler un peu, qu'on ait un peu plus de légèreté, ok, voilà, ça ferait du bien, moi, je vais faire de mon mieux, quoi. Et en même temps, d'autres moments, c'est pas le bienvenu, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est pas ça la bonne solution. C'est là, il fallait que j'accompagne, que je sois présent, sans jugement, avec accueil, que je te laisse t'exprimer, que je te laisse me parler, que je te laisse me dire ce que tu as besoin. Et on va traverser ça ensemble. Je suis là, je te choisis, je suis à tes côtés, je t'ai dans mes bras, je te prends par la main, je te laisse de l'espace physiquement parce que ça te stresse, etc. Peu importe, mais je suis là pour toi, je suis là avec toi, t'es pas toute seule. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui, ça me paraît pas mal. C'est pas un épisode qui est si court que ça au final. Je pensais que ça irait un peu plus vite, mais c'est très bien comme ça. Je t'ai dit ce que j'avais envie de te dire, ce qui était important pour moi aujourd'hui. Donc c'est cool, je suis content de ça. Mission accomplie pour moi, j'espère que ça te servira, j'espère que toi ce sera utile pour toi, j'espère que tu en retireras quelque chose, que tu pourras surtout le mettre en pratique dans ton couple, dans tes autres relations aussi, parce que ça ne s'applique pas qu'au couple. Je te prends des exemples professionnels aussi des fois, parce que je me rends compte que ces choses-là que j'ai appris des fois après ma carrière, après ces années-là où j'étais manager par exemple, où j'ai vraiment mis le doigt dessus après, parce que c'était déjà présent, que ça se jouait déjà dans des relations de famille, de boulot, de couple. Et que peut-être que tu en as besoin dans un cadre qui n'est pas le couple aussi. C'est aussi important. Comme toujours, si tu veux soutenir le podcast, bah, tu peux le partager, tu peux t'abonner. C'est deux choses qui soutiennent énormément le podcast. Tu peux aussi laisser un commentaire et une note. Donc voilà, sur l'app de podcast que tu écoutes ou le site que tu utilises, c'est très bien. Je permets aussi, enfin j'offre aussi des, enfin j'offre, je propose des accompagnements en ce que j'ai appelé développement relationnel, ou ce qui s'appelle le développement relationnel. Donc si tu as un élan, si tu as des choses que tu as envie de mettre en place dans ta relation, que c'est un peu compliqué, qu'il y a des problèmes de communication, qu'il y a des, voilà ce qu'on a vu aujourd'hui, il y a du jugement, il y a du manque d'accueil, ce genre de choses là, que tu aimerais aller vers une relation, pas parfaite parce que ça n'existe pas, mais où tu vas le faire un peu mieux, un peu plus souvent, un peu plus longtemps, ce genre de choses-là, et que tu veux mettre ça en place, et que tu penses qu'un accompagnement, ça peut servir, comme moi j'ai été accompagné par le passé, comme Mike, des fois des stages, des fois des lectures, des fois des coachs, des fois des thérapeutes, et voilà, des gens qui proposent peut-être une modalité, moi c'était pas de la thérapie, c'est pas du coaching, c'est pas de la psychologie ce que je propose, mais qui quand même ont été des accompagnants, à travers ces modalités-là qui sont un peu différentes aussi. N'hésite pas à me contacter, tu vas sur grainesdecoeur.fr, tu regardes l'onglet accompagnement, il y a les prix, il y a les détails un peu de ce que je fais, il y a quelques témoignages et tu vas pouvoir voir s'il y a un élan de ce qu'on travaille ensemble, qu'on mette ça en place et voilà, qu'on voit comment ça se passe. Donc n'hésite pas à me contacter une fois que tu as lu la page, une fois que tu as regardé un peu. Et moi encore vraiment, ce qui m'intéresse le plus, c'est de soutenir un élan, qui est quelque chose que tu as envie de mettre en place dans ta relation, qui est un peu difficile. Moi, je l'ai vu hein, personnellement. Il y a plein de choses que j'ai lues dans des livres, que j'ai écoutées dans des TED Talks, dans des vidéos, que j'ai mis si ça, je vais le mettre en place dans ma relation, c'est génial et tout. Et puis, pour la mise en pratique, elle n'est pas aussi facile qu'écouter la vidéo et comprendre le concept, quoi. Je suis avec un autre être humain, j'ai encore une fois, tout ce qu'on a vu au début, mes limitations, mes incapacités, mes vulnérabilités, mes blessures, je trimballe tout ça. Et du coup, bah, des fois, ouais, j'aimerais bien vivre ça, mais est-ce que je suis vraiment capable? Bah, pas encore. Donc, ça veut dire me mettre en chemin, trouver quelqu'un qui va m'aider à faire ce chemin-là, le faire tout seul, peu importe. Donc là, l'accompagnement peut permettre ça. Et enfin, il y a l'e-book qui est gratuit, qui t'aide à mieux communiquer. Donc tu vas sur grainesdecoeur.fr, tu mets ton prénom et ton email et tu le reçois par email, c'est gratuit. Tu peux le lire où tu veux, comme ça tu le télécharges, téléphone, tablette, ordinateur, et tu peux lire ça quand tu veux. En tout cas, je te remercie de ton écoute, je te dis à la semaine prochaine.